Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, dans la chronique, je vous parle d'un sujet qui fait jaser, rougir ou glousser dans les chaumières, je vous parle de masturbation. Car oui, pour ce qui est du plaisir solitaire, les autres animaux ne sont pas en reste. J'aurai ensuite le plaisir de recevoir Pierre Kerner, maître de conférence en génétique évolutive du développement à l'Université Paris Diderot et à l'Institut Jacques Monod, mais également vulgarisateur, blogueur, podcasteur et écrivain. Il vient aujourd'hui nous parler de son livre « Moi, parasite », paru aux éditions Belin, et de ses attachants protagonistes. Bonjour Pierre, et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Il existe encore des comportements qui appartiennent à la sphère intime et dont nous discutons rarement et ouvertement en société. La masturbation en est une parfaite illustration. Pourtant, et même s'il est encore un peu tabou, le plaisir solitaire est bien présent dans la vie des humains. Un sondage IFOP de 2017 réalisé pour le magazine Le Plaisir Féminin révèle, après avoir interrogé 913 femmes, que 74% d'entre elles se masturbent contre 95% des hommes. Or, dans les années 70, seuls 19% des femmes osaient en parler, contre 73% des hommes. Autre époque, autre mœurs ? Pas sûr. La masturbation, surtout féminine, a longtemps été vue comme une pratique honteuse, voire répréhensible. Mais qu'en est-il dans le reste du monde animal ? Est-ce que d'autres pratiquent l'amour en solo ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seule. Dans sa thèse soutenue en 2000 à l'université de Munich et dédiée à la fonction de la masturbation chez les macaques japonais, Ruth Thompson a recueilli via un questionnaire les observations de ses collègues sur le terrain pour estimer le nombre d'espèces de primates dont les mâles ont été observés en pleine branlette. 52 espèces différentes ont été prises la main dans le sac. Et selon le chercheur Alan Dixon, les primates du vieux monde originaires d'Afrique seraient plus enclins aux câlins en solo que ceux du nouveau monde, que l'on retrouve en Amérique du Sud. Et aucun prosimien, les lémuriens, microcèbes, loris et galago, n'aurait été observé en pleine pratique. C'est en tout cas ce qu'il affirme dans un chapitre du livre dédié au comportement homosexuel chez les primates, paru en 2010. Du primate et du mâle, jusque-là, rien de bien surprenant. Mais pourquoi ? Quelle est la fonction de la masturbation d'un point de vue évolutif ? L'une des hypothèses les plus classiques a été formulée en se basant sur le comportement humain, en 1965, par Zimmerman et ses collaborateurs dans le journal Fertility and Sterility. La masturbation permettrait à l'individu mâle de renouveler son sperme et de se débarrasser de l'ancien, stocké trop longtemps dans les testicules et potentiellement de moins bonne qualité. En renouvelant sa semence, le mâle maximiserait ses chances de procréer en cas d'accouplement. Il a en effet été prouvé que plus le sperme reste longtemps dans les voies génitales masculines, plus les spermatozoïdes perdent en vélocité et donc en efficacité. Mais d'un autre côté, plus le sperme reste stocké longtemps, plus le volume de l'éjaculat sera important et augmente donc aussi les chances du mâle d'être le futur père en écrasant la concurrence grâce au nombre. La compétition spermatique est rude. Il faut donc choisir entre un grand volume de sperme pas forcément au point ou un petit volume de spermatozoïdes tout fringant. Dur dur. Surtout que se masturber représente aussi une perte de matériel génétique et d'énergie qui ne débouche sur aucune fécondation. Le pourquoi du comment évolutif de la branlette reste encore obscur. Ruth Thompson, toujours elle, a suivi les macaques japonais de l'île de Yakushima de très très près pour tenter d'y voir plus clair. Elle décrit dans son article publié en 2003 avec Joseph Soltis dans le International Journal of Primatology comment elle a observé pendant un an les deux types de masturbation avec et sans éjaculation pour tenter de comprendre son lien avec le succès reproducteur de ses sujets. Elle remarque que les mâles se masturbent plus pendant la saison de reproduction et observe que les mâles se touchent environ 4 fois par heure, soit 50 fois dans une journée de 12 heures, au lieu de 1 fois par heure hors période de reproduction. Et plus un mâle est situé bas dans la hiérarchie, plus il se masturbe. Cependant, même si elle a parfois vu les singes se masturber avant de s'accoupler et que ses observations iraient dans le sens de l'hypothèse du renouvellement du sperme, pour maximiser ses chances, les circonstances d'observation restent très variables. Difficile donc de conclure de manière ferme et définitive sur la question. Et puis, qu'en est-il des femelles ? Est-ce une activité uniquement masculine ? Pas du tout. Et certains primates, mâles comme femelles, développent leurs propres techniques et même des objets spécialement pour ça. Et oui, surprise, les godemichets et autres sextoys ne sont pas uniquement utilisés par des êtres humains. Des chimpanzés et des orang-outans des deux sexes ont été vus en train de se masturber en utilisant des outils. Dans son livre paru en 1977, Herman Richsen observe que les mâles et femelles orang-outans adolescents se masturbent. Les mâles le font dès 6-7 mois, quand ils ne sont plus collés en permanence à leur mère, alors que les femelles le pratiquent plus tard, vers 2 ans. Les femelles ont été vues frotter leurs doigts, leurs pieds ou des objets contre leur clitoris, ou encore carrément insérer leur hallux, leur gros orteil, dans leur vagin. Faut être souple. Une publication de 2003 de Karel van Schaik et de ses collaborateurs, publiée dans le journal Science, révèle que l'utilisation de ces objets sexuels serait culturelle, puisque seules certaines populations d'orang-outans, très localisées géographiquement, s'en servent à ces fins, alors que tous les groupes observés savent utiliser des outils dans d'autres contextes et auraient accès aux mêmes ressources pour les utiliser à leur tour. Mais non, à chacun ses petits fantasmes et ses spécialités. Tout cela est bien joli, mais seuls les primates s'adonneraient à ces 12 activités en solitaire ? Que nenni ! Et rien que chez d'autres mammifères, les pratiquants sont légions. Chauves-souris qui pratiquent l'autofellation, dauphins qui se frottent contre tout, porc-épic enfiévré, la liste est longue. Les animaux domestiques, comme les chevaux, s'ajoutent également à la liste. Et leurs plaisirs solitaires ont été longtemps brimés, car les éleveurs avaient peur de voir la qualité de leur étalon pâtir de ces activités trop régulières. De plus, la masturbation était dans le passé associée à un état pathologique, apparaissant chez des animaux inactifs, isolés et privés d'un environnement social satisfaisant. Sue McDonnell et ses collègues décrivent en détail en 1991 dans le Journal of Reproduction and Fertility la fréquence et les circonstances de ces comportements sexuels chez des étalons et des poneys dans leur box ou en pâture. Elle observe que les chevaux frottent leur pénis contre leur ventre de manière pulsatile, ou en le plaquant contre leur abdomen, et que la fréquence de ces comportements est importante. En moyenne, 18 érections par 24 heures et par étalon. Elle constate aussi que les animaux qui vivent en semi-liberté, à plusieurs, avec un accès à des femelles, se masturbent tout autant que ceux qui sont seuls en intérieur. Mieux encore, les chevaux se masturbent de concert en voyant l'excitation poindre chez leurs congénères, et à bord, une expression faciale qui se rapproche de celle du plaisir, également observée quand les animaux se font leur propre toilette. Et comme chez les orang-outans, des animaux immatures se masturbent aussi. Un poulain observé tous les jours de sa naissance à ses 6 mois a montré des érections et de la masturbation dès l'âge de 7 jours. Conclusion de l'étude, rien d'anormal dans la masturbation équine et il n'y a pas de mal à se faire du bien. Plus loin de nous, d'un point de vue phylogénétique, les reptiles se prêtent aussi au jeu. C'est le cas notamment des iguanes marins qui vivent aux Galapagos et qui ont largement été étudiés par Charles Darwin lors de son voyage à bord du Beagle. Pour eux, la vie est dure. Les femelles ne sont partantes pour des galipettes qu'une fois par an. Tous les mâles sont donc sur le coup. Mais clairement, les plus jeunes, et donc les plus petits individus en taille, se font allègrement bolosser par les plus gros prétendants qui n'hésitent pas à déloger des petits jeunes en pleine action, en les mordant et en les piétinant jusqu'à ce qu'ils lâchent leur partenaire. Martin Wikelski et Silke Borle ont décrit en détail ce comportement dans un article paru en 1996 dans le journal Proceedings of the Royal Society B. Ils ont observé que les mâles avaient besoin en moyenne de 3 minutes pour finir leur petite affaire. Or, autant les gros mâles y arrivent dans 95% des cas, autant les petits mâles se font chasser avant d'avoir pu éjaculer, dans 29% des cas. Frustrant. Que faire alors ? Se chauffer pour aller droit au but. Les petits mâles se masturbent à la vue des femelles et stockent leur sperme en réserve dans une poche reliée à leur hémipénis. Ainsi, bien préparés et prêts à dégainer, ils augmentent leurs chances de succès de 41%. Pour étudier tout ça, les scientifiques jouent les troubles faits. Ils attrapent les femelles iguanes juste après la copulation et inspectent leur cloaque pour repérer la présence de sperme, soit du tout frais, fluide et transparent, soit du vieux sperme, décrit comme blanchâtre et visqueux, que les petits mâles avaient pris soin de stocker après s'être masturbés. Ils mesurent ainsi leur succès. Miam. Les oiseaux ne se privent pas non plus et ont même affolé les observateurs du début du XXe siècle par leurs mœurs jugées dépravées. C'est en tout cas ce qu'a ressenti l'explorateur arctique britannique, chirurgien et zoologiste, George Murray Levick. Il fait partie de l'expédition Terra Nova, menée par le capitaine Robert Falcon Scott entre 1911 et 1913 pour explorer le pôle sud. Le scientifique y étudie la plus grande colonie de manchots d'Adélie, au Cap Adar. Et ce qu'il y voit le traumatise. Viol, nécrophilie, pédophilie, comportement sexuel entre individus du même sexe et masturbation débridée contre tout type de support. Il parle de mâles hooligans. La vie sexuelle des manchots dénote et dérange. À tel point que pour préserver les âmes sensibles, il décide de compiler ses observations en grec ancien, afin que seuls des gentlemen éduqués puissent saisir toute l'horreur de la situation. Ces observations répréhensibles ne seront jamais publiées par Levick et tomberont dans l'oubli. jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte en 2012 et publiée dans le journal Polar Record 100 ans plus tard. Mais ce n'est pas tout pour la sexualité en solo de nos amis emplumés. De très nombreux propriétaires de perruches et perroquets ont régulièrement surpris leurs petits compagnons, mâles comme femelles, frotter avec insistance leurs cloaques contre leurs barreaux, jouets ou humains préférés. C'est le cas de Billy, une perruche calopsite mâle qui pouvait le faire jusqu'à 10 fois par jour. À tel point que sa propriétaire, Chloé Hayes, alors étudiante à l'université de Liverpool, s'en inquiète et en parle à son directeur de recherche, Tom Price. Nous sommes en 2015. Autant Conrad Lorenz a pu documenter des centaines d'heures de comportements sexuels chez les oies, même entre individus du même sexe, rien n'existe dans la littérature scientifique sur la masturbation chez les oiseaux. Est-ce seulement réservé aux oiseaux domestiques? Et quelle est sa fonction? Les oiseaux, équipés d'un cloaque, ressentent-ils du plaisir de la même façon que les mammifères? Toutes ces questions restant sans réponse, Tom Price se lance dans l'aventure avec ses étudiants de thèse et diffuse en masse des questionnaires auprès des propriétaires d'oiseaux pour tâter le terrain. Ces investigations sont encore en cours et je dois dire que j'ai fort hâte de lire ses conclusions. Encore largement inconnue, la masturbation et son étude continuent de rester confidentielles. Le fait que les sciences aient longtemps été l'apanage des chercheurs et non des chercheuses a aussi longtemps laissé la sexualité et le plaisir féminin dans l'ombre. La représentation très tardive du clitoris humain, ainsi que l'absence criante de données vis-à-vis du bobellum, l'os clitoridien que l'on retrouve chez de nombreuses espèces, est révélatrice de notre ignorance et d'un sexisme certain dans les sciences. Renouvellement efficace du sperme dans une lutte inextricable pour être le meilleur ou le plus rapide reproducteur, parade amoureuse, affirmation de la dominance, étape nécessaire pour l'excitation et l'ovulation chez la femelle, les hypothèses visant à trouver une fonction à masturbation sont nombreuses, mais les réponses restent encore bien nébuleuses. Et si on acceptait que, comme chez les humains, certains comportements soient dénués d'une fonction précise? Juste pour le plaisir. Et nous revoici avec notre invité, Pierre Kerner, maître de conférence en génétique évolutive du développement à l'Université Paris Diderot et à l'Institut Jacques Monod, mais également vulgarisateur, blogueur, podcasteur et écrivain. Il vient aujourd'hui nous parler des parasites, héros de son livre « Moi parasite » paru aux éditions Belin. Alors, pour commencer, d'où vous vient cet amour immodéré mais néanmoins surprenant pour les parasites ?
Ça vient du fait que ça fait partie des organismes vivants qui ont les cycles de vie les plus étonnants. Et donc, comme moi, j'ai lancé mon blog en 2009, Strange Stuff and Funky Things, le but, c'était vraiment de surprendre. Et c'est très, très, très facile de surprendre quand on décrit des organismes qui vivent à l'intérieur d'un autre. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est très propice à parler de sujets qui me passionnent de manière plus pérenne, comme l'évolution, l'interaction entre organismes vivants. Donc voilà l'intérêt de parler de parasites.
Donc il y a quand même le côté mécanique, le fait qu'ils aient réussi à s'adapter à des conditions de vie, à des hôtes qui souvent surpassent les autres espèces. C'est pas juste parce qu'ils sont dégueux.
L'aspect dégueu et surprenant, c'est vraiment l'accroche, et c'est très très efficace pour pouvoir intéresser. Moi, d'ailleurs, il faudrait faire peut-être une thèse, pourquoi la plupart des humains sont fascinés en regardant des trucs dégueux, ce serait très intéressant. Mais ensuite, derrière, il y a nécessairement quelque chose de très très intéressant à développer sur le plan de l'évolution.
Mais si je ne me trompe pas, c'est pas du tout votre formation, les parasites. Vous travaillez pas du tout dessus dans vos travaux de recherche.
Et non, pas du tout. Ça fait partie de mes sujets de vulgarisation. C'est un aspect qui m'intéresse parce qu'il est propice à expliquer des choses aux gens. Moi, j'ai donc plusieurs casquettes en tant qu'enseignant-chercheur. L'enseignement, expliquer des choses pour que du savoir soit transmis de cerveau à cerveau, de l'enseignant à des étudiants, la recherche, et moi je travaille en génétique évolutive du développement, je m'intéresse sur l'évolution de certaines caractéristiques qui ont évolué chez les animaux. Et enfin, une troisième casquette, c'est de partager l'enthousiasme des sciences, ce que j'appelle la vulgarisation scientifique, on pourrait parler de médiation scientifique ou d'autres choses, en anglais on parle de science outreach, et qui est tout simplement de partager des connaissances scientifiques et de l'enthousiasme pour les sciences par tous les moyens possibles, y compris les parasites.
Y compris les parasites. Vous avez quand même une préférence pour tout ce qui est animalier, si je ne me trompe. C'est quand
ah
même
oui,
très...
Non, mais...
ouais,
alors bon, j'ai fait un tout petit peu de choses dans lesquelles je me suis intéressé à des champignons, à des plantes, à des organismes unicellulaires. On est obligé même pour les parasites à parler énormément de virus, de bactéries, etc. Mais oui, parmi mes favoris, ça reste quand même les animaux, ouais.
Et au niveau donc de vos sujets de recherche, donc vous travaillez sur... Dites-nous un peu quand même, parce que la génétique évolutive du développement, il y a plein de mots compliqués à la suite, mais concrètement, sur quoi travaillez-vous et qu'est-ce que vous étudiez ?
Donc la discipline dans laquelle je travaille s'appelle l'évo-dévo.
D'accord.
Donc ça, c'est le terme consacré qui a été fourni, qui est donc un acronyme pour parler d'évolution et développement. Donc moi, ma discipline s'attache à expliquer comment l'évolution peut fonctionner en regardant et en comparant l'embryogenèse, ce qu'on appelle le développement, de différents organismes multicellulaires.
Okay.
Donc le développement, c'est quelque chose qui est pertinent quand on regarde des champignons, des plantes, des animaux, bien entendu, qui ont des étapes d'embryogenèse, de développement dans lesquelles on passe d'un stade unicellulaire à un stade multicellulaire. Et pendant ces étapes-là, il y a tout le plan d'organisation, toute la morphologie de l'organisme qui se met en place. Et à travers toutes ces étapes-là, en fait, l'évolution peut bricoler des adaptations et faire que des membres soient plus ou moins grands, qu'il y ait plus ou moins de vertèbres. En gros, tout le bricolage pour pouvoir changer les formes se passe à ce moment clé de l'embryogenèse. Donc cette discipline s'attache à expliquer comment ça s'est...
comment ça se met en place.
Voilà, comment ça se met en place au cours du développement de différents organismes et essayer d'échafauder des scénarios évolutifs pour pouvoir s'imaginer comment un serpent a perdu des pattes, a obtenu plus de vertèbres, etc., etc.
Parce que peut-être que les auditeurs ne savent pas, mais il y a certains plans qu'on retrouve chez des espèces qui sont parfois assez éloignées d'un point de vue évolutif. Par exemple, quand on voit le développement d'un embryon humain avec d'autres mammifères ou même d'autres espèces animales, on retrouve des choses assez proches finalement, non ?
Oui, c'est-à-dire que la morphologie finale des organismes vivants, notamment les animaux, la morphologie de l'adulte est souvent très 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 dérivée d'un plan d'organisation qui se met en place assez tôt au cours du développement, et on peut voir beaucoup plus de similitudes si on compare un embryon humain au stade de très précoce avec un embryon de poulet, etc., alors que bon, au final,
voilà. Qui les séparent.
Ouais.
Très bien, donc tout ce qui est évo-dévo. Mais revenons à nos morpions. Qu'est-ce que c'est un parasite ?
Qu'est-ce que c'est un parasite ? Alors, il y a beaucoup de définitions qui s'entrechoquent dans le monde et dans le monde scientifique et dans celui de la vulgarisation. La définition, et il y a tout un chapitre qui est passé sur la définition de ce que c'est que le parasitisme. Celle que je préconise, c'est celle de Claude Combes, qui est qu'il s'agit d'une interaction durable entre un organisme qu'on va appeler le parasite et son hôte, dans lequel il y a un effet néfaste du parasite sur l'hôte.
D'accord, donc il y a toujours des pots cassés quoi, dans l'histoire.
Voilà. Ouais. Et donc cet effet néfaste est immédiatement en relation d'un effet bénéfique qu'apporte l'hôte pour le parasite. Et donc, on peut dire que c'est une relation d'exploitation entre le parasite et l'hôte.
Donc, toutes les relations où, par exemple, les deux individus gagnent lors de cette interaction ou que finalement c'est assez neutre, en tout cas personne n'y perd, ça ce sont d'autres types d'interactions, c'est pas du parasitisme.
Exactement, qui seraient à mettre ensemble, si l'interaction est durable, dans une notion qu'on appelle la symbiose.
D'accord.
Donc la symbiose est souvent confondue avec une forme qu'on appelle le mutualisme, dans lequel il y a donc deux organismes qui vivent de manière durable ensemble et qui s'apportent en échange des effets bénéfiques dans leur relation.
Donc ça, c'est le mutualisme. Les deux y gagnent.
Exactement.
Okay.
Mais l'insymbiose, stricto sensu, c'est du mutualisme ou du parasitisme ou ce qu'on appelle aussi du commensalisme, voire du neutralisme. C'est-à-dire, à partir du moment où on a une relation dans laquelle deux espèces sont associées l'une à l'autre, ce qu'on va voir, c'est quels sont les effets qui sont apportés, mais cette relation d'interaction durable et quand elle est à proximité physique, devrait porter le nom de symbiose, puisque étymologiquement parlant, symbiose, ça veut dire vivre avec.
Ensemble, d'accord. Voilà. Donc le parasitisme fait partie de la symbiose, même si, du coup, l'issue souvent de l'interaction n'est pas au
pas
mieux.
Pas sympa.
Voilà. L'autre question que je me posais, c'est est-ce que les parasites, en tout cas tous les parasites, ont absolument besoin d'un hôte pour survivre ? Est-ce que tout seul, ils ne peuvent pas s'en sortir ?
Alors non, il y a beaucoup, donc cette notion, c'est la notion de facultativité, si j'ose dire, ou de caractère obligatoire d'une relation. Il y a beaucoup de parasites pour lesquels leur phase parasitaire n'est pas obligatoire.
D'accord.
Voire leur phase parasitaire n'est pas dépendante d'une espèce précise d'hôte et peut avoir tout un spectre d'hôtes pour pouvoir se manifester. Par exemple, on connaît des parasites qui sont très spécifiques, qui peuvent se développer uniquement s'ils sont en association avec un hôte précis, une espèce précise. Mais d'autres peuvent tout à fait se passer de cette interaction-là, voire parasiter différentes espèces tant qu'elles apportent finalement un milieu de vie propice à leur développement. Ce qu'il faut vraiment imaginer, c'est de la même manière qu'on voit des espèces qui sont inféodées à un milieu, d'autres ne le sont pas du tout. Et donc, en gros, il faut envisager l'hôte comme un territoire.
D'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des parasites ? Est-ce que vous avez parlé de phase parasitaire ? Est-ce qu'il y a des parasites qui ne sont pas parasites toute leur vie, qui ne sont qu'à certains moments donnés de leur existence ?
Exactement, il y a beaucoup de parasites qui alternent des phases libres et des phases associées. À différents moments, certains ça va être pendant la vie larvaire, d'autres ça va être pendant la vie adulte, et parfois même dans certaines espèces, on a un dimorphisme dans lequel, dimorphisme cette fois-ci comportemental, dans lequel un des sexes est parasitaire alors que l'autre ne l'est pas.
Waouh, au sein de la même espèce. Donc le mâle peut être parasitaire, la femelle non, ou inversement.
Avec très très souvent des mâles qui ont une sorte de comportement parasitaire sur la femelle, pour pouvoir se justement.
Sympa. Ouais,
c'est ça, c'est fréquent aussi.
Une belle vision de l'amour romantique. Une autre question, on parle des parasites, du côté très attachant qu'ils peuvent avoir. Est-ce qu'il y a des parasites de parasites ?
Et ben là, par exemple, je viens manifestement d'en parler un, avec ces mâles qui vont parasiter la femelle. Mais c'est plus, il faut s'imaginer que c'est plus une nécessité de proximité, puisque la femelle est elle-même attachée sur son hôte. Le mâle, pour pouvoir se reproduire, doit, d'une certaine manière, être en proximité de la femelle. Et au cours de l'évolution, il y a eu, pour certaines espèces, une sélection de ce comportement parasitaire pour pouvoir se fixer à vie à la femelle. Alors bon, comme c'est dans la même espèce, c'est un peu difficile de définir ça comme une relation parasitaire. Généralement, les relations sont dites interspécifiques. On s'intéresse à des associations entre différentes espèces, mais c'est le cas pour d'autres espèces parasitaires, comme par exemple les guêpes parasitoïdes. Donc, c'est un grand nombre d'espèces qui pondent leurs œufs, leur progéniture, dans des œufs ou larves d'autres insectes.
D'accord.
Ou même, voire parfois, d'autres arthropodes. Ça peut être
chez les insectes adultes.
Voilà.
Ouais, okay.
Ou larvaires. En tout cas, à gros, parfois, ça peut être même dans des araignées. C'est très, très variable. Eh bien, il y a des espèces parasitaires qui sont... qui ont pour cible de parasiter des hôtes parasitaires eux-mêmes. Et donc, qui vont pondre à l'intérieur d'un œuf d'une espèce ou d'une larve d'une espèce, à l'intérieur donc d'une larve parasitaire. Donc ça, c'est vraiment du parasitisme imbriqué.
Poupée russe, quoi.
Exactement. Il faut s'imaginer, par exemple, y a ces guêpes parasites peuvent parasiter non pas nécessairement des animaux, mais aussi des végétaux. Elles sont par exemple des guêpes gallicoles, galligènes pour être plus précis, qui vont, lorsqu'elles pondent à l'intérieur de tissus végétaux, entraîner des malformations, des sortes de tumeurs. Et ces tumeurs apportent tous les apports nutritifs à l'espèce qui est pas parasitaire. Mais ça, c'est un logis parfait pour d'autres espèces de guêpes parasitaires qui vont donc s'attaquer justement et qui n'ont pas exactement le même régime alimentaire. La première guêpe, elle, est herbivore puisqu'elle va manger des tissus végétaux et d'autres guêpes, dont les larves sont carnivores, vont manger les tissus de la larve
qui est en train de manger.
Exactement.
Parce que, et du coup, ça anticipe une autre question que j'avais, c'est est-ce qu'il peut y avoir des parasites végétaux qui s'en prennent à des animaux, ou du coup des animaux à des végétaux? Donc là, c'est le cas, ces fameuses guêpes. Voilà, et moi, je me demande aussi, juste pour rester sur cette histoire de guêpes qui pondent dans des tissus végétaux, est-ce que la même guêpe est aussi capable de pondre sur des animaux, ou ce sont deux espèces différentes? Est-ce qu'il y a une guêpe spéciale qui pond que dans des tissus végétaux, ou pas du tout?
Alors, c'est très 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 rare. On pense qu'au cours de l'évolution, le principe de cette ponte vient du fait que la plupart des guêpes pondent dans un milieu précis, ouais, qui doit apporter des éléments nutritifs et de protection à leur progéniture. Donc, en fonction du groupe de guêpes concernés, ça entraîne une spécificité particulière par rapport au milieu dans lequel se trouvent ces espèces. Il y a des très très fortes pressions de sélection, donc en gros l'évolution qui apporte une pression sur les types de comportements et de morphologie que doivent adopter les guêpes. Donc c'est très 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 rare qu'il y ait un spectre d'hôtes. Voilà, c'est ça.
Et puis je me dis au niveau du matériel, enfin je veux dire pouvoir pondre dans une larve molle ou dans un tissu végétal, enfin elles ont une sorte de pointe pour.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ce qu'on appelle un ovipositeur, et l'ovipositeur des guêpes qui sont capables de percer des tissus végétaux sont généralement renforcés, ouais, avec des résidus métalliques.
Wow.
Donc on a vu qu'il y avait du zinc ou du cuivre qui se retrouvaient à l'extrémité de l'ovipositeur pour leur permettre de percer ces tissus.
Quoi.
Donc ça, espérons que ça ne perce pas les humains, parce que c'est quand même assez,
assez
hardcore. Voilà.
Et donc pour revenir, donc les animaux qui parasitent des végétaux, donc ça existe, mais est-ce que l'inverse, des végétaux qui s'attaquent aux animaux, ça existe aussi?
C'est très très rare.
Ouais.
Généralement, les végétaux s'attaquent plus aux végétaux ou aux champignons. Il y a des rares cas dans lesquels des plantes peuvent pousser en étendant leurs racines sur certaines larves,
okay,
mais c'est plus
un
du
peu
fait,
accidentel, quoi.
Voilà.
Il est sur le chemin, bon.
c'est à se demander, et donc moi je me suis attaché à chercher des exemples, et c'est assez difficile justement de caractériser ce comportement parasitaire, mais qui sait, peut-être que j'ai pas assez bien cherché, qu'il y a pas mal d'exemples. Par contre, des champignons qui s'attaquent à des animaux, ça, il y a de toute façon. Et si on étend le terme de plante aux algues, là il y a de nombreuses algues parasitaires, notamment dans les milieux marins. Oui.
Qui s'en prennent aux poissons ou à d'autres animaux, à des
ou
larves,
aux méduses, etc. Oui, oui, wow, tout à fait. Ouais. Et qui peuvent altérer leur comportement. C'est assez fascinant.
C'est, ouais, assez impressionnant. Je ne pensais pas du tout. OK. Aussi, donc, toujours rester sur la grande variété de ces parasites. C'est vrai que nous, quand on pense parasites, on est très homo-centré, homo sapiens. On pense beaucoup aux espèces que l'on peut retrouver chez nous. Mm-hmm. Donc, les poux, les tiques, les puces, les vers. Donc, on est souvent sur des familles d'insectes ou d'arachnides. Ou, voilà. Mais ça peut, j'imagine, les parasites peuvent prendre plein d'aspects différents. Est-ce qu'il existe des parasites dans tous les taxons? Est-ce qu'il existe des parasites oiseaux, crustacés, mammifères ou pas du tout?
Déjà, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vu que le parasitisme, c'est un mode de vie, la plupart du temps, les gens essaient de mettre une image de ça, et c'est une image animale. Or, on vient de l'évoquer, il y a certaines plantes parasitaires, il y a certains champignons parasitaires, ça peut prendre beaucoup de formes puisque c'est juste une relation entre deux espèces. Et la plupart du temps, quand je dis que les bactéries et les virus sont des parasites, pour la plupart, pour les virus, l'intégralité des virus sont parasitaires, les gens me regardent et font « mais non, c'est des virus ». Je fais « mais... »
Ça n'empêche.
Du coup, voilà, on parle de la définition de parasite. Enfin, ah oui, d'accord. Donc moi, je pensais que parasite, c'était plus gros que bactéries et virus, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et il y a beaucoup de bactéries qui ne sont pas parasitaires. Donc ça permet vraiment d'entrevoir que le parasitisme, c'est une... Ça, quand on s'intéresse à cette définition, c'est un mode de vie.
Oui, c'est partout.
Mais, même si c'est un mode de vie, est-ce que c'est partout? Donc moi, je me suis attaché justement pour écrire ce livre, Moi Parasite, à essayer de trouver des exemples divers et variés d'organismes parasitaires. Et il y a un groupe qui résiste à trouver des exemples de parasites, ce sont les échinodermes. Ce sont donc, parmi les animaux, des espèces qui appartiennent à un grand groupe dans lequel on va retrouver les oursins, les étoiles de mer, les concombres de mer, les comatules, les ophiures, etc. Et chez qui je n'ai pas trouvé d'exemple de parasites.
De parasites.
Voilà.
mais sinon, partout ailleurs, il y a du parasitisme.
Mais du coup, ça pose la question, mais pourquoi dans ce groupe-là, il n'y a pas de parasites? Est-ce qu'il n'y a jamais eu d'espèces parasitaires? Qu'est-ce qui fait que ces étoiles de mer, ces oursins, ne peuvent pas être parasites? Ça, c'est un sujet intéressant.
Surtout que, c'est une de mes autres questions, par exemple, on évoquait tout à l'heure, moi je ne m'en remets pas, les algues qui parasitent les méduses. Souvent, quand on parle de parasites, il y a l'idée soit d'héberger des larves et du coup, ça nourrit. Enfin, on va pondre chez un autre animal parce que la larve va se nourrir. Il y a quand même souvent l'idée d'accès à la nourriture quand il y a un parasite. Mais finalement, en fait, les espèces peuvent se parasiter pour toute autre chose, pour avoir un logement, pour quelle raison est-ce qu'un parasite va parasiter son hôte ?
Vu que la notion de parasitisme est une relation d'exploitation, de manière large, il faut se demander qu'est-ce qui est exploitable ? Et donc, chez des organismes vivants, il y a beaucoup de choses qui sont exploitables. L'énergie, donc généralement la matière qui est formée, mais cette énergie, elle peut être d'une autre nature. Par exemple, le transport. Il y a beaucoup d'espèces qui veulent tout simplement se passer de dépenser de l'énergie pour aller d'un point A à un point B et qui vont donc parasiter d'autres espèces. Ça même permet d'envisager que certaines espèces de plantes parasitent des animaux pour ces notions-là.
Se déplacer, finalement.
Voilà, par exemple, pour se disséminer, la pollinisation est souvent fournie comme un exemple de relation mutualiste entre un insecte ou n'importe quel organisme pollinisateur et la plante. Et pourtant, il y a, pour fournir finalement cet exemple qui me vient maintenant à l'esprit d'une plante qui va parasiter des animaux, certaines plantes, certaines orchidées, qui manipule le comportement de certains insectes pour se faire polliniser sans apporter absolument aucun service en retour. Juste en ayant une apparence qui ressemble à des femelles guêpes et des phéromones qui évoquent à des mâles guêpes qu'ils sont en train de féconder une femelle alors qu'ils sont en train de féconder une fleur et vont permettre à la fleur de justement disséminer son pollen à droite à gauche.
Et l'insecte, il gagne rien, à part d'avoir passé un bon moment avec sa fausse partenaire.
Mais pour rien d'un point de vue évolutif, en tout cas.
Oui, c'est ça. C'est assez dingue, toute cette variété. Et pour conclure cette idée de variété, les parasites, ça veut dire qu'on les retrouve dans tous les milieux. Il y a des parasites dans l'eau, dans les airs, sur Terre.
Ah oui, c'est à partir du moment où dans n'importe quelle branche du vivant, on a du parasitisme, et à partir du moment où surtout une des plus grandes branches du vivant, entre guillemets, les virus sont concernés, on a trouvé des virus partout. Donc nécessairement, on retrouve du parasitisme partout. Le parasitisme, faut s'imaginer un petit peu comme un credo, et non véritablement quelque chose de taxonomique.
Oui, c'est ça, il y en a vraiment partout, sous toutes les formes. Mm-hmm. On vous laisse vous trémousser et onduler de plaisir pendant une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus.
Un lundi à la plage, une journée à la plage. Super. We'll be right back. regarder les nuages. Un lundi à la plage, une journée tout entière d'ombre et de lumière. Quand le soleil s'entête derrière le rivage, même si c'est vrai, j'ai passé là.
C'était les lundis à la plage de Junior. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pi. Et je reçois aujourd'hui Pierre Kerner, maître de conférence en génétique évolutive du développement à l'Université Paris Diderot et à l'Institut Jacques Monod, mais également vulgarisateur, blogueur, podcasteur et écrivain. Il nous parle aujourd'hui de parasites. Alors, on l'a vu, les parasites, on les trouve partout, chez tous les types de taxons du vivant, dans tous les milieux, etc. Mais ce qu'on n'a pas encore vu, donc on a vu que les parasites pouvaient piquer l'énergie, pouvaient utiliser les autres animaux pour se déplacer, enfin, ils utilisent toutes les combines possibles pour s'économiser. Mais j'ai lu dans votre ouvrage, donc Mots parasites, que certains d'entre eux peuvent carrément bouleverser l'aspect physique de leur hôte, comme la saculine.
En effet, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que cette exploitation de matière, d'énergie, même parfois de travail qui est fourni, il y a certains parasites qui peuvent exploiter le comportement des organismes pour obtenir tel ou tel comportement précis, entraîne que certains parasites ont développé au cours de l'évolution des manières de manipuler la morphologie et le comportement de l'hôte. La saculine, c'est un crustacé qui a pour hôte généralement d'autres crustacés. C'est un crustacé particulier qui, si on regarde sa forme adulte, ne ressemble à rien. C'est une sorte de blob qu'on voit fixé sur des crabes ou des langoustines, etc. Et quand on regarde et qu'on dissèque le pauvre hôte, on s'aperçoit qu'il y a tout un réseau, ce qu'on appelle un rhizome, donc de racines, qui s'est développé à l'intérieur de l'hôte pour lui pomper toute l'énergie. Mais ce n'est pas tout ce que fait cette saculine. En parasitant son hôte, la saculine, qui est arrivée à l'état larvaire dans le crabe ou la langoustine, va donc occuper différents tissus de l'hôte, notamment va complètement castrer l'hôte. En fonction du sexe, ça va être donc de supprimer les ovaires ou les testicules, ce qui va avoir un effet sur, d'une part, les réserves allouées aux parasites. En effet, quand on castre un organisme, tout le monde le sait pour les fêtes de Noël, quand on fait un chapon, eh ben, on obtient une volaille qui est un petit peu plus grasse. Eh bien, c'est la même chose pour la plupart des organismes. Si le parasite castre son hôte, celui-ci va accumuler plus d'énergie.
Prendre l'embonpoint.
Exactement. Il faut s'imaginer que toute cette énergie est normalement dédiée à développer donc, une progéniture pour les comportements, pour développer des hormones, mais aussi pour pouvoir avoir des réserves limitées, plus de muscles, etc. Donc là, on a plus de gras. Donc ça, c'est bien pour le parasite. Et en castrant, donc la castration parasitaire entraîne aussi, chez le crustacé hôte, une altération des comportements. Et que ce soit chez les mâles et chez les femelles, ce qui est assez fascinant, on obtient un comportement maternel pour le parasite.
Pour le parasite. C'est-à-dire que l'hôte s'occupe de son parasite comme si c'était sa progéniture.
Comme si c'était sa propre progéniture, c'est-à-dire qu'il va nettoyer le parasite, il va le protéger, bien entendu, il va le alimenter en oxygène en brassant plus d'eau autour du parasite. Et au moment de la ponte du parasite, le crabe va avoir son comportement altéré et avoir tout le comportement maternel de dissémination de la progéniture classique du crabe femelle. C'est-à-dire que ce soit un mâle ou que ce soit une femelle, il va se mettre sur un petit monticule, commencer une petite danse pour pouvoir propager les larves de parasites qui sont émises dans le milieu, larves de parasites qui, malheureusement, condamnent en partie son espèce.
Waouh. Voilà. Et ça, c'est une interaction qui peut durer longtemps. Enfin, le temps que la saculine s'implante sur son crabe, qu'elle développe tout le réseau, etc. Enfin,
ça dure pratiquement toute la vie de l'hôte.
Du crabe, quoi.
Ouais. Et donc de la saculine. Wow. Par extension, ouais.
Mais ça peut durer plusieurs années. Enfin, j'ai aucune idée de l'échelle des temps. Ouais.
Ça se développe et ça dure très très longtemps. Ouais, ouais. Il faut s'imaginer que si la saculine est fixée, elle peut, dans le cas de certaines espèces, pondre plusieurs fois.
Ok. Ouais. Donc ça condamne pas le crabe une fois qu'il y a une ponte. Ça peut durer comme plusieurs cycles.
Cette interaction dure au cours du temps, mais par contre, d'un point de vue évolutif, la contribution du crabe est finie puisqu'il ne peut plus se reproduire.
C'est ça. Mm-hmm. Mais il peut, enfin, en gros, elle lui pompe suffisamment de nourriture et d'énergie, mais sans pour autant le tuer, en fait.
Exactement.
Parce que qu'est-ce qui va tuer le crabe, au final, dans cette interaction ? C'est lui qui va mourir de vieillesse, de sa belle mort, ou elle peut prendre plus que ce qui est nécessaire ?
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects dans lesquels la vie du crabe est quand même condamnée, même si la saculine ne pompe pas toutes les réserves d'un coup, sinon ce serait de l'exploitation de type prédation. C'est une prédation sur la longue durée, il y a diminution des réserves allouées au crabe au fur et à mesure, mais d'autre part, pour pouvoir rester à l'intérieur du crabe, il y a aussi une diminution de son système immunitaire, et ça peut avoir des conséquences sur la fragilité de manière générale de la santé du crabe. Donc a priori, pas censé durer autant, mais il y a certains cas dans lesquels on a observé que le parasitisme augmentait la durée de vie de l'animal. Ce qui est classique si cet animal-là, l'animal hôte, a une durée de vie limitée par sa vie sexuelle, qui épuise beaucoup
c'est vrai.
De ressources.
Donc en coupant ça, du coup, l'animal vit plus longtemps.
Parfois.
Mais bon, à un coût quand même assez élevé, quoi.
Exactement.
Donc ça, on l'a évoqué, donc la manipulation, ce qui est quand même assez fou. Donc là, on parle de manipulation donc, du comportement au niveau physique. Mm-hmm. Donc il y a aussi d'autres parasites, il y a tout un chapitre dans l'ouvrage qui parle de parasites manipulateurs. Ouais. Alors il y a quelques exemples emblématiques, mais comment est-ce qu'ils s'y prennent ? Moi, je pense notamment... Alors, je ne me souviens plus du nom des parasites, mais il y a ceux qui envoient leur proie se faire manger, qui vont agir, notamment, je crois que c'est des sauterelles qui sont emmenées dans l'eau, etc. Enfin,
Alors, il y a différentes manières.
Techniques.
C'est ça. Donc, la manipulation comportementale, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Il faut s'imaginer qu'on est finalement, l'expression des gènes du parasite qui vont avoir un impact non pas sur la morphologie du parasite en lui-même, mais sur la morphologie et le comportement de l'hôte. On appelle ça une notion qui est assez compliquée, qu'on appelle le phénotype étendu. Le phénotype, c'est la manifestation des gènes d'un organisme.
Okay.
Donc la couleur des yeux, c'est le phénotype, la couleur des cheveux, c'est le phénotype. Et donc le phénotype étendu, c'est cette notion d'action, mais... ailleurs que sur le corps même de la personne qui a tel ou tel gène. Le phénotype étendu donc, d'un parasite, ça peut être la manipulation comportementale. Et ce qui est fascinant, ça veut dire que ce sont des bricolages génétiques du parasite qui vont avoir une influence sur le système nerveux de tel ou tel animal. Un des exemples que moi j'aime beaucoup, c'est quand on parle par exemple du champignon cordyceps qui est capable de manipuler le comportement de fourmis. Ce champignon donc investit le corps de la fourmi et une fois à l'intérieur, on ne sait pas exactement encore comment ça se passe.
Parce que
voilà, il y a les tissus du champignon à l'intérieur de la fourmi qui évitent le cerveau. Donc,
Alors qu'on pourrait penser que justement c'est là
exactement.
Qu'il y
avait. Okay. Et qui cependant arrive à manipuler le comportement de la fourmi pour que celle-ci à des moments clés de la journée, c'est pas à n'importe quel moment, c'est généralement à l'aurore ou au crépuscule, elle se perche au-dessus de la fourmilière et attrape une branche avec ses mandibules, s'y fixe fermement et attend que le champignon sorte de la fourmi pour pouvoir disséminer ses spores sur la fourmilière, donc continuer le cycle de vie du champignon.
Tout ça, ça veut dire que c'est un one shot. La fourmi, elle le fait une fois et elle meurt quand le champignon sort, ou le champignon peut re-rentrer et recommencer
le cycle. Non, c'est un one shot. Okay. Et d'ailleurs, en réponse, la plupart des espèces qui sont fréquemment parasitées par ces champignons manipulateurs, dès qu'elles détectent les premiers signes d'un parasitisme chez telle ou telle fourmi, des ouvrières sont chargées de prendre cette fourmi et de la mettre le plus loin possible. Ouais, voilà.
Parce que j'imagine que quand elles font ce comportement, ça doit, enfin, les autres fourmis doivent se... Enfin, je ne veux pas dire se poser des questions, ça serait très anthropomorphique, mais s'il y a une fourmi qui ne fait pas du tout ce qu'elle fait habituellement, est-ce que peut attirer l'attention des autres ou...
Parce que généralement, des fourmis, des ouvrières, elles peuvent aller un petit peu à droite, à gauche.
Oui,
et là, il faut s'imaginer que c'est une brindille qui est à une certaine hauteur au-dessus de la fourmilière. Il faudrait que d'autres fourmis sachent exactement où se trouvent toutes les fourmis à un moment donné, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est assez compliqué de détecter justement le parasitisme quand on a des relations. On le voit par exemple pour le coronavirus, c'est un peu compliqué de pouvoir détecter qui est infecté ou pas.
Mais je trouve ça assez dingue le côté précision horaire, que ce soit à un moment donné, et que ce soit aussi une précision géographique. Quoi. C'est pas n'importe quelle brindille. Fin...
À une certaine hauteur du sol.
C'est ça. Comment est-ce que ça peut être programmé? Enfin, c'est assez fichu. Enfin,
une grande question. Pour le moment de la journée, il faut s'imaginer tout simplement que le champignon va hacker des systèmes de détection des moments de la journée, soit du champignon, soit de la fourmi. Or, on a énormément d'horloges biologiques internes qui nous permettent de savoir, ça y est, je suis le matin, ça y est, je suis le soir, etc. Mais, et donc, il suffirait d'une certaine manière que certains gènes de champignons puissent hacker ces systèmes-là pour savoir, maintenant, je sais que c'est le matin, donc c'est le moment où je déclenche le plan diabolique parasitaire de manipulation comportementale. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est que pour pouvoir manipuler le comportement, ici, sachant que les hyphes mycéliens, c'est-à-dire donc les cellules du champignon, sont dans tout le corps de la fourmi, mais pas dans le cerveau, la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe ?
Quoi est-ce qu'il agit, quoi ?
Est-ce qu'il y a une sécrétion de neurotransmetteurs, une sorte de cocktail chimique à l'intérieur de la fourmi pour pouvoir obtenir la manipulation du comportement ? Ou au contraire, est-ce que le champignon passe complètement outre cette idée de cerveau qu'elle n'a pas, et va juste manipuler les muscles.
Le côté mécanique, quoi.
Exactement, un peu
comme une marionnette.
Voilà.
C'est assez fou. Mais en matière de parasites manipulateurs, il y en a aussi qui carrément vont pousser leur hôte à se suicider. Enfin,
ouais.
Ils ne reculent devant rien, quoi. Enfin,
là, cet exemple avec le champignon, c'est le cas, d'une certaine manière, puisque au moment de l'extirpation du champignon de la fourmi, celle-ci meurt complètement.
Mais c'est le parasite qui l'a. Enfin, c'est le parasite qui la tue, finalement.
Exactement. Et pour d'autres exemples, comme par exemple le ver nématomorphe, c'est un ver qui passe à l'état larvaire l'essentiel de son cycle de vie dans un hôte, généralement un insecte. Et au moment de la reproduction, elle a besoin de retrouver un milieu aquatique. Et généralement, son hôte, c'est un grillon, un criquet, etc. On a rarement vu des grillons et des criquets sauter joyeusement dans l'eau, voilà. Et donc, le nématomorphe va exprimer des protéines qui vont manipuler le comportement de l'hôte pour que celui-ci se retrouve attiré de manière irrépressible dans un plan d'eau pour pouvoir s'y noyer.
C'est quand même assez fou. Et là, il va retrouver d'autres vers nématodes
pour se
reproduire.
D'ailleurs, généralement, en été, on voit souvent, il y a certains possesseurs de piscines qui voient des choses très, très bizarres, des criquets qui sont à l'intérieur de l'eau. Et s'ils regardent assez attentivement, ils pourront voir s'y extirper un ver qui dépasse largement en taille celle de leur hôte. C'est assez...
Le petit habitant.
Exactement. On a l'impression qu'il était en origami à l'intérieur. C'est vraiment très, très impressionnant.
Et... on peut aborder, je pense, de fait, ce qui fait une excellente transition, la reproduction des parasites. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'ils font pour trouver l'âme sœur, si j'ose dire, alors qu'ils sont souvent tout seuls dans un hôte. Je pense, par exemple, il y a le ténia, qui est le ver solitaire qu'on connaît, qui vit donc, dans les intestins, mais c'est un peu le même cas de figure là, avec le ver nématomorphe. Comment est-ce qu'ils font pour se retrouver?
Alors, déjà, il faut s'imaginer que chez les animaux et dans le vivant de manière générale, la reproduction sexuée peut prendre plusieurs formes. On pense tout de suite à l'hermaphrodisme, ce qui est le cas pour le ténia. C'est un organisme qui possède à la fois des ovaires et des spermatozoïdes, et donc qui est capable de générer des gamètes, donc ces cellules sexuelles, qui vont tout simplement être fécondé à l'intérieur du corps du ténia.
Donc il se débrouille tout seul.
Voilà. Donc lui, il est hermaphrodite, c'est de l'auto-fécondation, mais avec un brassage génétique du fait de la génération de spermatozoïdes et d'ovules, suffisant pour pouvoir entraîner une sorte de diversité génétique. Pas terrible, mais c'est pas mal déjà.
Mais c'est mieux que du clonage, par exemple.
Voilà.
Parce qu'il y a certaines espèces, comme les phasmes, qui peuvent se reproduire toutes seules, mais par ténogénèse. Tous les individus sont identiques.
Exactement.
C'est ça.
Ce qui pose un problème pour la diversité génétique. Or, sans diversité génétique, on se retrouve très rapidement à avoir donc des clones qui, si l'hôte évolue pour pouvoir se défendre contre justement le clone A, va devenir excessivement capable de se défendre contre ce clone. Donc il y a une pression pour pouvoir maintenir une diversité génétique chez les parasites. Cependant, les parasites sont confrontés avec cette sorte de paradoxe, c'est qu'il faut qu'ils soient très très nombreux, parce que s'ils ne sont pas nombreux, il y a de fortes chances que l'hôte arrive à se débarrasser, et il faut qu'ils soient très divers. Et la diversité, généralement, elle est apportée par la reproduction sexuée qui nécessite de rencontrer un partenaire sexuel.
Exactement.
Donc, en fonction des parasites et en fonction, justement, de ce que l'évolution a bricolé au cours des années, certains voient des phases de réplication asexuée pour pouvoir augmenter leur nombre, suivies par des phases sexuées pour pouvoir retrouver un partenaire. Voilà. Et ça peut être des reproductions sexuées qui se font hors des hôtes, ou à l'intérieur des hôtes, avec tout un mécanisme pour permettre de s'assurer de trouver un partenaire sexuel et de le maintenir. Donc il y a énormément d'adaptations complètement étranges dans lesquelles des parasites, lorsqu'ils trouvent un partenaire sexuel, fusionnent avec. Il y a notamment le cas de Diplozoon, un organisme qui, lorsqu'il a été découvert à l'état adulte, était très très particulier parce qu'il avait... une paire d'ovaires et une paire de... Enfin, deux paires d'ovaires et deux paires de testicules, ce qui laissait entendre qu'il y avait deux adultes, et en fait, c'est le cas. Cet animal-là, parasitaire, lorsqu'il se retrouve dans les branchies d'un poisson, à l'état larvaire, va se mettre à la recherche d'une autre larve, et dès qu'il a trouvé l'autre larve, il fusionne, et on a donc un animal monogame par excellence, puisqu'il a fusionné de manière pérenne avec son partenaire sexuel.
Mais il garde... Est-ce qu'après, il peut se remettre en couple à un autre moment, ou juste il y a une seule rencontre et pour la vie, quoi.
Pour celui-là, c'est foutu. Pour un autre qui est assez marrant, c'est le schistosome. C'est un ver dans lequel le mâle a une forme de manteau et il enferme la femelle qui, elle, est complètement filiforme.
Okay.
Et bon, pendant longtemps, on pensait qu'on les retrouve dans le système vasculaire de la plupart de certains mammifères, des rongeurs, des humains aussi. Et à l'intérieur de ce système vasculaire, le mâle enferme donc la femelle qu'il maintient dans son manteau. Et on avait l'impression que du coup, ça contraignait la monogamie chez ces espèces-là. Et en faisant des génotypages pour pouvoir voir qui avait couché avec qui
complètement.
On s'apercevait qu'il y avait des transferts, certaines femelles qui passaient d'un mâle à un autre, donc qui devaient s'extirper de l'emprise d'un mâle.
Finalement.
Et il y a notamment des films assez faramineux, assez impressionnants, qu'on peut retrouver même sur YouTube, dans lesquels des mâles peuvent tirer une femelle d'un autre mâle.
Eh hey, bien,
voilà.
bonne ambiance. Alors, on l'a vu, donc ces animaux, même s'ils sont habituellement pas dans nos critères de beauté, on va pas se mentir, hein, souvent ce sont des vers. Il y a plein d'espèces différentes, mais c'est souvent l'image que l'on a d'eux. Dans l'ouvrage Moi Parasite, l'une des pirouettes stylistiques que vous avez choisie et qui est, je dois le dire, très efficace, c'est que vous mettez à la place de plusieurs d'entre eux. Les chapitres sont écrits du point de vue du parasite. Alors je me demandais que... J'imagine que ce n'est pas facile de rendre un ténia sympathique, mais je voulais savoir si vous aviez eu là aussi des retours de lecteurs attendris ou du moins moins dégoûtés par les parasites après la lecture de l'ouvrage. Est-ce que finalement la personnification, ça marche ?
Alors on m'a fait de nombreux retours pour me dire que justement ça leur faisait réfléchir, pas nécessairement attendrir, ce qui est un peu dommage, mais réfléchir sur cette notion-là. Je me suis vraiment attaché à changer le point de vue, et le dernier chapitre notamment, qui est rédigé par le parasite ultime, le virus, est celui où je me suis vraiment attaché le plus à faire réfléchir et comprendre quels pouvaient être les bénéfices apportés par le parasitisme. Et ils sont nombreux. D'un point de vue écologique, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue comportemental, même d'un point de vue évolutif, il y a certaines structures dont on a hérité maintenant qui n'auraient pas pu avoir lieu, qui n'auraient pas pu être inventées par l'évolution si les parasites n'avaient pas été associés. Donc c'est très très important. Et si, d'un point de vue intellectuel, on peut déjà mettre la graine de la réflexion que le parasitisme n'est pas complètement noir, ce serait une mission réussie pour ce livre.
C'est déjà pas mal. Alors, on l'a un petit peu évoqué, donc vous faites de la vulgarisation via différents formats. Le blog, tout d'abord, Strange Stuff and Funky Figs, donc S-S-A-F-T pour les intimes, qui a fêté récemment ses 11 ans.
Merci.
Vos cours auprès des étudiants de Paris Diderot, le podcast avec l'équipe de Podcast Science, de la vidéo aussi sur YouTube, seul et accompagné, des livres papier. Donc chacun ses particularités, donc ouais. Je ne vais pas vous demander de choisir, mais... Est-ce qu'il y en a un qui est quand même plus adapté pour parler de parasites ?
Pour les parasites, non. C'est-à-dire que tous les médias sont bons pour pouvoir parler de parasitisme puisque chacun sont propices à évoquer une facette du parasitisme. La vidéo, très efficace, on a cet aspect dégoûtant et c'est une accroche immédiate. L'écrit, et notamment... L'écrit illustré, que ce soit dans le livre, il y a de nombreuses illustrations de Adrien Demilly et de Alain Prunier, permettent d'accrocher d'une manière différente, intellectuelle, mais de posément structurer une explication. Le podcast, ça peut être fascinant. Il y a d'autres manières de faire. On peut parler on peut passer des sons d'organismes hôtes qui seraient altérés. On peut passer un bruit de coucou qui annonce justement du parasitisme en train de se faire. C'est très très propice. Donc je pense pas qu'il y a véritablement de médias qui diminuent l'intérêt de parler des parasites.
Les parasites sont toujours bons sous tous les angles et sous toutes les lumières. Alors, pour finir, donc on l'a vu, vous êtes quelqu'un de très occupé. Je voulais voir sur quoi vous planchez en ce moment. Quels étaient vos projets actuels et vos dernières créations en matière de vulgarisation ?
Alors, donc moi, j'ai mon blog que j'alimente peu fréquemment, mais que j'alimente quand même, avec depuis maintenant un an une newsletter qui y est associée et que je complémente assez fréquemment, une fois par mois généralement, pour pouvoir évoquer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'ai des réseaux sociaux associés au blog, donc sur Facebook, sur Twitter, dans lequel je partage très très fréquemment ce que j'ai vu de surprenant dans mes pérégrinations internet. Je participe souvent aussi à Podcast Science, qui est un podcast amateur et qui est un format que j'aime beaucoup. Tous ces projets-là, je compte les continuer, voire les développer, et surtout en association avec de l'enseignement. J'enseigne la vulgarisation dans mon université, et c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, puisque je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très propice pour acquérir du savoir. Donc mes étudiants font du blog, font de la vidéo, font du podcast pour pouvoir apprendre justement à expliquer aux autres et en faisant à s'expliquer à soi-même. Donc ça c'est un des aspects que je développe dans mon activité d'enseignement et de vulgarisation. Après, pour des projets d'écriture, j'en ai de nombreux, de BD, de livres illustrés, de livres essais. Pour l'instant, rien de signé, donc pratiquement rien à discuter de concret.
On en reparlera pendant une prochaine émission sans doute. Peut-être. Mais donc les billets de blog de vos étudiants de vulgarisation, on peut les retrouver en ligne ?
Tout à fait, sur un blog qui porte le nom de Culture Biologique Numérique. Ça tape bionum.univ-paris-diderot.fr, mais si on tape bionum sur Google, on devrait trouver, ou n'importe quel autre moteur de recherche, ne soyons pas sectaires.
Et puis je le rajouterai dans les liens du podcast avec grand plaisir. Merci Pierre pour m'avoir éclairé sur les mœurs de ces parasites et sur leur fascinant arsenal de rascal. Retrouvez l'incroyable bestiaire dégueu et fascinant de Pierre sur son blog Strange Stuff and Funky Things à l'adresse ssaft.com, mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram en cherchant notamment Moi Parasite. On finit comme d'habitude avec quelques conseils de lecture.
Thank you.
Pour finir cette émission, je voulais vous conseiller quelques ouvrages. Le premier est bien entendu le livre de notre invité. Il s'agit de l'ouvrage « Moi parasite » de Pierre Kerner, paru aux éditions Belin. L'auteur vous propose, au fil de ses 187 pages, de vous glisser dans la peau d'un parasite, ou du moins d'écouter ce qu'ils ont à vous dire. Le ton est drôle, enlevé, et vous apprendrez au fil de ces pages tout un tas de choses traumatisantes, mais absolument réjouissantes. Le premier chapitre sur le ténia, et notamment les expériences menées sur les condamnés à mort pour en découvrir le cycle de vie, m'ont marqué à vie. Les autres chapitres explorent la sensualité de ces charmantes bestioles et leur vie sexuelle, mais aussi les dommages collatéraux des associations entre hôtes et parasites, la réponse musclée des hôtes, mais aussi les merveilles d'inventivité qu'ont développé ces animaux pour survivre au cours des temps géologiques. Le tout est complété par une bibliographie fournie pour creuser le sujet, ainsi que par les sublimes illustrations méticuleuses d'Adrien Demilly et celles plus humoristiques mais néanmoins complémentaires d'Alain Prunier. Un livre unique en son genre, drôle et instructif. Pour rester dans l'ambiance des parasites illustrés, je vous propose l'ouvrage écrit par Marc Giraud, illustré par Roland Garrigue et intitulé « La vie rêvée des morpions et autres histoires de parasites » paru dans la collection « L'humour est dans le pré » chez Delachaux et Niestlé. Cet ouvrage de petit format présente en 128 pages, grâce à des textes très courts et grâce à de nombreuses illustrations rigolotes, tout un tas d'anecdotes croustillantes sur ces charmantes bestioles. Du crabe petit pois qui loge dans les coquilles des moules, au poisson thermomètre qui loge dans l'anus du concombre de mer, en passant par les morpions que l'humain a partagés avec le gorille, ou la rafflésie, la fleur parasite qui pue, vous pourrez briller en société et ressortir ces fun facts à votre guise. Un petit bouquin qui permet de picorer et de s'approprier nombre d'anecdotes amusantes. Pour conclure, sans mauvais jeu de mots et parler sexualité débridée chez tout un tas d'espèces animales, je ne peux que vous recommander chaleureusement l'ouvrage « Manuel universel d'éducation sexuelle à l'usage de toutes les espèces » par Olivia Judson, traduit par Jean-Baptiste Grasset et Fabien Rambeau et paru aux éditions du Seuil. Le docteur Tatiana, sexologue, spécialisée en biologie évolutive, vole à la rescousse d'animaux inquiets pour leur vie sexuelle. Elle répond donc avec humour et précision à la hyène femelle qui s'inquiète d'être confondue avec un mâle à cause de son pseudo-pénis, au vautour urubu, choqué de ne pas voir plus de couples fidèles et monogames comme eux, à une maman lamantin, inquiète pour son fils qui aime les mâles, et à la mante religieuse qui culpabilise de manger ses amants. En 329 pages, extrêmement bien sourcées, l'autrice décrypte les comportements sexuels en expliquant les avantages et inconvénients évolutifs de chacun. Duel, cannibalisme, viol, tricherie, parade et autres manœuvres, rien ne vous sera épargné. Une lecture réjouissante. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse, à François Berchenko, à La Technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h, pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche.